Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour, frère Philippe.
Si nous entrions aujourd'hui à la deuxième section du catéchisme de l'Église catholique, la profession de la foi chrétienne, les symboles de la foi. La première chose que je voudrais dire, c'est il y a, j'allais dire, il y a deux pluralités. Et j'ai envie de dire comme ça, c'est un petit peu nébuleux. Le mot symbole de la foi, les symboles de la foi, je trouve important de rappeler que ça renvoie à une pratique de l'Antiquité où on avait un objet symbolique qui rassemblait.
Oui, qu'on brisait. Oui.
Quand on était d'une même association, d'un même groupe, on brisait, chacun prenait une partie. Quand on se retrouvait, on s'identifiait d'une certaine façon avec ces symboles, on se reconnaissait partie prenante.
On rapprochait les parties cassées et on voyait qu'on était bien, même si c'était le fils de celui qui avait cassé ou le petit-fils, les morceaux continuaient à se montrer en vis-à-vis et à former une unité. Donc c'était très très beau parce que les générations pouvaient passer, le symbole durait.
Donc il y a le je crois en Dieu, notre credo, je crois en Dieu, c'est un symbole de la foi en ceci que nous venons tous avec notre pièce pour reconstituer, pour confesser ensemble une même foi. Je disais une double pluralité parce que le symbole de la foi, le credo, nous fait entrer dans l'entièreté de la foi. Enfin, c'est un résumé de notre foi chrétienne avec plusieurs symboles, plusieurs énoncés de cette foi qui sont importantes à fonder notre foi chrétienne.
Oui, il y a plusieurs énoncés parce que, si vous voulez, la foi est une, elle est unique. C'est l'unité d'abord, comme Dieu est unique, unique est notre foi. Nous le disons d'ailleurs, une seule foi, un seul baptême et une seule affirmation finalement de la résurrection de Jésus-Christ. Nous avons une unité profonde d'abord à annoncer. Mais c'est vrai que Dieu a tenu compte de la faiblesse de ce que nous sommes au niveau anthropologique et nous avons besoin, nous, dans notre façon de nous exprimer, d'utiliser des mots qui sont successifs. Il y a un discours discursif. Eh bien, Dieu, dans son infinie miséricorde, les pères disaient une condescendance, mais il faut prendre le mot dans le bon sens, c'est-à-dire non pas dans un sens péjoratif, mais dans un sens d'amour. Dieu est descendu parmi nous et il a pris des mots, nos mots, pour que nous les utilisions. Et ces mots, eh bien, les pères de l'Église, nos premiers évêques, ainsi que les apôtres, ont su rassembler les éléments qui font que si on ne tient pas à cette profession de foi, eh bien, on risque de tout perdre, on risque de manquer l'essentiel. Et ils ont canalisé en quelque sorte ces expressions, parce qu'on peut toujours être, je dirais, prolixe quand on parle, trop. Et c'est peut-être notre défaut ici, même à la radio. Et du coup, il faut un peu rassembler, parce qu'on a tendance à être, à nous disperser, à trop dire de choses. Donc ils ont rassemblé les choses pour que, en tenant ce qui est dit, on arrive à dire ça va. À partir du moment où on croit à ça et qu'on dit cela, on est sur le bon chemin, on adhère à la personne de Jésus-Christ qui se révèle et qui nous a révélé le Père, qui nous a révélé l'Esprit-Saint. Si on tient bien ça, on est sur le bon chemin. Voilà, ils ont voulu baliser, si vous voulez, par une sorte de sécurité, parce qu'il y en avait certains qui disaient « mais Jésus est un ange, Jésus n'est pas humain, il a pris une apparence, etc. » Vous voyez, donc il y avait des tas de formulations qui étaient erronées, qui étaient à côté de la place, et il fallait un peu les rassembler. Or, on ne pouvait pas, dans la courte durée d'une assemblée dominicale, le dimanche matin, souvent, ou le samedi matin, chez nos pères, relire les quatre évangiles à la fois. Vous imaginez, on aurait pris déjà la moitié de la matinée à le faire. Donc, il fallait trouver des expressions qui rassemblent et qui permettent de dire, en peu de mots, quelque chose qui fasse que, ensemble, on puisse affirmer l'unité, l'unicité de cette foi.
Si tu me permets, avoir le credo ne dispense pas de faire de la théologie,
alors,
de
non.
réfléchir ce que signifient ces éléments.
Chacun des articles, d'ailleurs, le symbole des apôtres, ou le symbole dit des premiers saints conciles, est très très bien structuré. Celui du symbole des apôtres, on peut le diviser en 10, comme les 10 doigts d'une main, c'est-à-dire c'est très facile à faire apprendre même à un petit enfant. Vous divisez 5 et 5, vous avez ceux qui sont relatifs au mystère trinitaire et ceux qui sont relatifs au mystère de l'Église, vous les mettez en vis-à-vis, vous apercevez que ça colle très bien, vous pouvez les retenir très facilement avec les 10 doigts de la main. Le symbole de Nicée-Constantinople est déjà plus marqué par la théologie, par les combats qui ont eu lieu dans les premiers temps, où le malin essayait de diviser, essayait d'opposer, etc. Donc il a fallu expliciter un peu plus. C'est toujours la même foi. On n'explique rien de plus, mais on explicite ce qui a été l'occasion d'un combat, pour être plus dans la vérité de ce qui a été révélé. Et cette explicitation reste quand même très structurée, puisque vous avez un temps pour le Père, un temps pour le Fils et un temps pour le Saint-Esprit auquel est lié le mystère de l'Église. Et ces trois temps sont très structurés. On peut les prendre et passer beaucoup de temps. Et finalement, quand on lit le catéchisme du Concile de Trente ou le catéchisme du Concile Vatican II, eh bien, ils reprennent toujours ces symboles et ils sont explicités d'une manière assez variée. Mais quand on les lit, on reconnaît, mais c'est la même foi. Mais je suis tout à fait d'accord. Donc, on est très heureux de voir que la foi de nos pères au XVIe siècle disaient la même chose finalement que nous au XXIe siècle. C'est une grande joie de voir que ces explicitations avec des mots qui conviennent mieux à notre époque trouvent finalement un bon écho. Et un grand théologien des premiers siècles disait « Nihil novi, sed nove ». C'est le fameux saint Vincent de Lérins, dans les îles qui sont au sud de Cannes. Et dans cette très belle expression du « commonitorium », il veut dire que nous ne disons jamais rien de nouveau par rapport à la révélation, mais nous le disons toujours sous un mode neuf, parce que les générations se renouvellent et qu'il faut toujours redire les choses d'une manière actualisée pour que ça morde, que la foi corresponde à ce que les gens vivent et ce que les gens professent.
Par exemple, nous y reviendrons par la suite, mais si l'on prenait dans les fondements de notre foi Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, le credo, ce qu'on appelle le kérigme au départ, donc l'annonce première de la foi, le symbole des apôtres, le symbole de Nicée-Constantinople, vont nous donner le cadre, comme tu disais tout à l'heure, le cadre dans lequel on va chercher à penser, à comprendre cette affirmation de foi que Jésus-Christ est vrai Dieu, vrai homme. Nous n'allons pas l'expliquer aujourd'hui, mais c'est le principe que je voulais...
Oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Dire que Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme, ben déjà, il faut bien s'entendre sur quand on dit Dieu, quand on dit homme et quand on dit personne. Jésus-Christ est une personne et c'est cette personne qui unifie le fait qu'il est une nature humaine et une nature divine en même temps, sans que ça crée une division. Et cela demande un peu de temps, et c'est vrai que même à Nicée-Constantinople, ça n'a pas toujours été évident, il y a eu des disputes, et j'ai pris avec moi, voyez, pour vous rendre compte que parfois on est obligé de perfectionner les paroles, Saint Grégoire de Nazianze, qui a été quand même le théologien grec par excellence pour toute l'histoire de l'Église, a présidé le concile de Constantinople, dont on a le symbole, et vous savez ce qu'il disait en claquant la porte de ce concile, il disait « Les évêques coassaient chacun de son côté, peuple de jets rassemblés, foule de jeunes, nouvelle officine, tourbillon de poussière, vent impétueux, auquel nul de ceux qui sont parfaits dans la charité divine et l'épiscopat n'aurait daigné parler. Ils bouillonnaient et bredouillaient en désordre, ou comme des guêpes vous sautent droit au visage, tous ensemble. La vénérable vieille Méliès les suivait, bien loin de m'originer les jeunes. Vous imaginez la foire d'empoigne que ça devait être. Donc ça n'a pas été facile, si vous voulez, il faut bien se rendre compte. Et c'est pour cela qu'il y a eu des conciles successifs et qu'il a fallu parfois ajouter encore des éléments sous l'autorité du pape à la 34, à Florence, dans les différentes étapes conciliaires, parce que, si vous voulez, l'imperfection humaine fait que même ce qui est bien dit mérite des approfondissements.
Pour terminer notre petit échange, là, je trouve important de souligner ce que dit l'article 199 du catéchisme. « Tout le symbole parle de Dieu », ce que tu as dit, hein. Et s'il parle aussi de l'homme et du monde, il le fait par rapport à Dieu. Je pense à cela parce qu'à certains moments, moi qui ai parcouru les églises en France, les paroisses pour la messe télévisée jadis, parfois c'est important de rappeler que le credo, on ne le transforme pas, on ne le refait pas à sa sauce, si je puis dire.
Oui, oui.
Parce qu'il y avait cette idée qu'on allait pouvoir mieux l'expliciter, mais alors souvent on parlait de l'homme lui-même, enfin, on parlait du croyant, mais on ne savait plus en quoi croyait le croyant, si je puis dire.
Oui, oui, oui.
Je trouve important de redire, tout le symbole parle de Dieu, et s'il parle aussi de l'homme et du monde, il le fait par rapport à Dieu.
Et c'est ça. Et donc il ne suffit pas de dire « je crois en Dieu qui chante et qui chante la vie », des expressions gentilles, si vous voulez, mais il faut affirmer les mots mêmes de nos pères pour transmettre la foi. C'est ça qui est vraiment important, puisque les articles du credo dépendent tous du premier, tout comme les commandements explicitent le premier. C'est très beau ce lien. J'adhère d'abord à Dieu, je crois en Dieu. Credo in unum Deum, je crois en un seul Dieu, dit le concile de Nicée-Constantinople. Et c'est dans cette foi-là, qui est donnée gratuitement, que l'explicitation vient, tout simplement parce que Jésus a eu la bonté de nous révéler son rapport au Père et la promesse du Saint-Esprit.
Et cela s'inscrit dans une tradition, dans une transmission, et c'est d'ailleurs pour cela que les catéchumènes vont recevoir le credo. Oui. On parle de la tradition et du symbole de la foi.
Exactement. Avant Pâques, avant qu'ils soient baptisés, il y a le moment de la reddition. Et qu'est-ce que c'est que cette reddition? C'est pas une capitulation, c'est le fait de pouvoir redire ce qu'il leur a été dit la semaine d'avant, le symbole qu'ils ont entendu des croyants, dans le corps duquel ils vont être agréés, et par grâce, ils vont réciter eux-mêmes, à leur tour, pour la première fois, publiquement, ce credo qui les fait chrétiens.